Donc bonjour John.
Eh ben bonjour, enchanté.
Tu es régisseur de profession, il me semble.
Exactement.
À partir de quand
Régis.
as-tu exercé ce métier?
Alors, j'ai commencé en 2008, si je dis pas de bêtises. Donc au début, je faisais de la tournée avec un groupe qui s'appelait Bukowski. Et voilà, ouais, 2008. Avant, j'étais accessoiriste dans un théâtre. Donc c'était spectacle vivant aussi, mais pas vraiment dans la musique. Et puis voilà, régie de tournée, tour manager, et puis depuis quelques années, un peu de régie de production. Donc c'est un peu le même métier, mais de l'autre côté, ça consiste à accueillir des régisseurs de tournée, enfin des tour managers.
D'accord, et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ton travail et quelles sont tes missions, par exemple, sur, on va dire, dans un cas pratique, admettons, quand tu es, pour un concert, si tu dois assurer un concert, c'est quoi tes missions?
Alors, tour manager, c'est le lien entre un agent ou une société de booking et le groupe et la salle dans laquelle ça va jouer. Donc, la salle, ça peut être également une autre société de production qui a acheté le concert. Donc, moi, mon rôle est de faire de l'accompagnement d'artistes, bien sûr, voilà, de les surveiller le jour du concert, mais au préalable. De mettre en contact avec mes techniciens, mes artistes, savoir ce dont ils vont avoir besoin sur la route, que ce soit humainement, techniquement ou même niveau de la logistique de transport, c'est-à-dire voilà, on est trois à partir sur la route, on est 15, on est 50, on est 125, on a besoin de partir avec un van, on part en train, on part en tourbus. On part en voiture, on part à pied, n'importe quoi. Voilà, c'est définir tous les besoins logistiques, techniques et d'accueil dont je vais avoir besoin pour que le spectacle se passe bien. Faire ce qu'on appelle donc des riders d'accueil et riders techniques pour des documents qui regroupent tout ça. Et après, moi, de me mettre en relation avec les salles ou les festivals, envoyer ces documents. Et m'assurer que ce que l'on demande sur ces documents soit respecté le jour J. Donc ça va être des besoins d'hôtel, des besoins alimentaires, c'est-à-dire que si j'ai un artiste qui est vegan, végé, qui a une contrainte alimentaire, qui est allergique, j'en sais rien, au lactose, au citron ou à n'importe quoi, voilà, que si il est végé, ce serait dommage qu'on se retrouve avec j'en sais rien, une saucisse frite pour tout le monde, ce serait un peu dommage, ils mangeraient que des frites. Donc voilà, suivant un peu la notoriété du groupe, c'est adapter l'accueil, adapter les conditions techniques pour que voilà, que tout se passe bien. Si on arrive avec beaucoup de matériel, que la salle puisse accueillir, être sûr que ce qu'on va demander en lumière ce soit sur place, que le son ce soit ce qu'il faut. Voilà, c'est un peu tout ça, c'est faire un peu de son, faire un peu de lumière, faire un peu de backline et s'occuper de tout ça en amont et le jour J, s'occuper et de mes techniciens, voilà, que tout se passe bien pour eux et qu'ils aient ce qu'il faut pour travailler et de mes artistes qui soient dans des conditions favorables pour faire un super concert le soir et que tout le monde soit ravi. Parce que c'est comme ça, le but du jeu à la fin, c'est que le spectateur passe un bon concert.
D'accord,
Et
ok.
voilà, en gros, en voyant très très large, c'est ça. C'est regrouper tout ce qui est la technique et l'humain dans des documents, l'envoyer avec des salles ou des productions et puis échanger pour faire en sorte que voilà, que les horaires qu'on demande soient les bons, que les horaires du concert en lui-même soient bien respectés et voilà, en gros. En plus du fait de parfois conduire un peu les artistes, de monter le matériel, et ça, voilà, c'est d'autres choses, mais on va dire que 70% du travail de régisseur se passe avant un concert, c'est vraiment de la préparation.
D'accord, ok. Merci en tout cas de nous avoir expliqué les grandes lignes de ta profession. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi tu t'es lancé dans cette carrière professionnelle?
Et pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que, un peu par hasard, comme je disais au début, je faisais du théâtre. Au tout début, je faisais du théâtre. Je travaillais dans un théâtre, j'étais intermittent. Et tout petit, j'avais mon père qui travaillait dans ce même théâtre. Et donc, j'avais un papa accessoiriste et une maman comptable. Et très vite, petit, je voyais mon père qui rentrait le soir à la maison quand je le voyais le soir, parce que parfois, effectivement, il partait en tournée et il n'était pas toujours là, mais qui revenait avec des histoires. Tiens, aujourd'hui, on a construit un dracard. Aujourd'hui, on a reconstitué une forêt. Un monde un peu magique où ça construisait des choses, ça rigolait. Il y avait des voyages, il y avait des échanges. Ça me semblait bien plus cool que ma mère qui était comptable dans le luxe et qui me parlait plus de chiffres et de « Ah bah tiens, aujourd'hui, il y a la DRH qui a viré un tel parce qu'elle est trop grosse et qu'elle ne correspond pas à l'image de la société. » Et je me souviens parfaitement du soir où ma mère m'a dit ça, que la société avait viré quelqu'un parce que voilà, son image physique ne représentait plus la marque. J'avais trouvé ça horrible et complètement injuste. Et je m'étais toujours promis de jamais faire ça dans ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont soutenu dans cette démarche, justement, d'aller vers un métier artistique. Le petit rêve secret de ma mère, quand elle était jeune, était de bosser dans un centre d'écoute spatiale pour savoir s'il y a des petits hommes verts dans l'espace. Et elle a fini comptable pour une marque de luxe. Donc elle m'a dit, voilà, si toi tu veux faire ça plus tard, eh ben on te soutiendra et... on sera avec toi. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu, d'avoir pu faire des études dans ce sens-là. Et puis voilà, un peu le hasard de la vie, les rencontres qui font que je travaille dans un théâtre, donc je suis un peu dans le milieu artistique. Et puis j'avais des musiciens autour de moi qui m'en font rencontrer d'autres, ainsi de suite. Et puis voilà, la vie, apprendre sur la route, apprendre sur le tas, et apprendre des expériences. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ce métier. Mais c'est ça surtout qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était un peu de faire comme mon père et de rentrer le soir en ayant des choses à dire et en ayant le sourire surtout. C'est une partie assez importante pour moi du métier, c'est le contact humain et que tout se passe bien avec tout le monde. Et je préfère largement moi mon métier de tout ce que je fais plutôt que même d'être sur scène et d'avoir toute la pression justement de faire un bon concert, d'avoir des résultats un résultat vraiment purement financier, enfin s'il faut vendre ton album si tu veux que, enfin moi ça me permet de bosser avec plein de projets différents, plein de groupes dans des styles différents, dans des lieux différents, et c'est vraiment ce qui me plaît. Donc c'est vraiment ce qui m'a amené à faire ça. Et c'est ça qui m'a convaincu, on va dire.
D'accord. Et pour aussi la petite histoire, on s'est rencontrés sur une interview du groupe Massisteria. Comment est-ce qu'on fait pour être embauché par un groupe? Est-ce que c'est par agence? Est-ce que ça passe par bouche à oreille? C'est les artistes qui disent, tiens, ce régisseur-là, il est bon. Je te le conseille pour ta future tournée, tout ça.
Tout dépend un peu... de l'organisation du groupe. C'est-à-dire que tu vas avoir des... Nous, dans notre secteur rock-metal, ça reste quand même très souvent le groupe qui fait appel aux techniciens par bouche-à-oreille. Tiens, tu bosses avec un tel, ou je t'ai vu sur tel concert, sur tel festival. Et je parle pour mon métier, donc régisseur ou backline, ou que ce soit des techniciens son, des techniciens lumière, les gens qui vendent des t-shirts, les merchandising. Généralement dans ce cercle là c'est quand même très souvent le groupe qui embauche la personne et qui dit à la prod, je bosse avec un tel, au moins qui insuffle un peu le souffle du on veut bosser avec lui. Après il y a des productions où qui choisissent pour le groupe, et ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur des projets, je ne connaissais nullement les artistes. Et c'est la production qui me plaçait dessus. Et voilà, c'était une mission de A à Z. Voilà, tu pars sur une tournée, 2 mois et demi, 2 ans. Voilà. Et voilà, donc ça, généralement, quand on part sur des milieux de variété, des très gros groupes, c'est quand même généralement la prod ou justement le tour manager qui va monter une équipe. le tourman effectivement choisi par la production, et plus on va commencer à se rapprocher vers des groupes en développement, surtout dans nos milieux rock, là c'est vraiment le bouche à oreille, les relations, que ce soit pour n'importe quel type de métier où, bah tiens, lui il bosse bien, lui il est cool, lui il habite à côté de chez toi, même juste ça, parfois la localisation aide bien. Et moi, pour mon cas perso, c'était beaucoup ça, c'était beaucoup de bouche à oreille. Ça a été un groupe d'amis qui répète dans un studio de répétition, qui me permet de rencontrer un autre groupe qui marche un peu. Ce groupe-là m'en fait rencontrer un autre, qui m'en fait rencontrer un autre, qui me fait rencontrer un même prod qui me met sur un autre groupe, et ainsi de suite. Et ma Sisteria, effectivement, c'était en 2011, donc je tournais avec un Bukowski et d'autres depuis quelques années. Et en fait, à force de se croiser, le régisseur de l'époque devait partir sur une autre tournée, donc devait se faire remplacer, et puis voilà, on s'est appelé, bah tiens, est-ce que tu peux me remplacer sur la résidence, est-ce que tu peux m'appeler sur tel concert, et puis parfois un remplacement, puis deux, puis trois font que tu prends le poste, enfin ça dépend un peu de ça. Moi en tout cas c'était ça beaucoup, c'était du bouche à oreille, du remplacement, et puis les groupes que je croise sur la route qui m'appellent et m'embauchent finalement.
Donc techniquement on peut être amené à changer d'employeur régulièrement?
Ah bah c'est même le principe de l'intermittence, c'est de changer d'employeur. C'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, je crois que pour être intermittent, même sur tes 507 heures, tu ne peux pas avoir un seul employeur. Tu es obligé d'en avoir au moins 3 ou 4, si je dis pas de bêtises. Même si c'est juste un contrat, tu ne peux pas avoir 507 heures d'une seule boîte, si je dis pas de bêtises. Mais oui, Massistaria, c'est une société de production, et tous les autres groupes avec qui je travaille bossent avec d'autres sociétés. Parfois c'est le même agent, parfois c'est le même agent, c'est le même booker, mais non, ça change même très souvent. Et même au-delà de ça, de faire de la tournée, quand je bosse sur de l'événementiel, un coup j'ai bossé pour Live Nation, un coup j'ai bossé pour Drouot, un coup j'ai bossé pour Verichaux Productions, pour Link Prod, enfin pour toutes ces prods françaises qui œuvrent dans l'univers de la musique en France.
D'accord, et du coup, comme tu viens de l'expliquer un petit peu tout à l'heure, tu as, du coup, je suppose, le statut d'intermittent, et on va dire que la rémunération se fait à partir du moment où tu as tes 507 heures de travail.
Ouais, c'est ça. Donc je suis intermittent depuis... je dis pas de bêtises, 2007 ou 2008 peut-être, je dirais 2008 pour pas dire de bêtises. Et effectivement, au début, je faisais des heures qui comptabilisent pour arriver une fois aux 507 heures. Une fois qu'on est aux 507 heures, donc on devient intermittent, et donc on a effectivement ce qu'on appelle un cachet, donc c'est le salaire que nous donne la production par jour de travail avec un artiste, avec n'importe sur le projet sur lequel on travaille. Et c'est quand même la chance qu'on a donc d'avoir ça en France. Donc c'est un complément de salaire, comme peut l'être le chômage. C'est-à-dire que si je travaille 20 jours, l'État va me compenser mon salaire d'une dizaine de jours pour avoir un salaire correct à la fin. Et il faut savoir qu'effectivement, l'intermittence, c'est pas les impôts de Monsieur Tout-le-Monde qui les paye, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et se permettent de critiquer l'intermittence là-dessus. C'est qu'on dit, oui, les intermittents, ils volent l'argent du contribuable, sauf qu'il faut savoir que sur un cachet, moi, je paye des charges qui cotisent justement pour mon intermittent. C'est-à-dire que si je gagne 150 euros sur une journée, en vrai, j'ai coûté 300 euros. C'est-à-dire que j'ai la moitié, un peu moins de la moitié de mon salaire qui est parti pour cette caisse de cotisation et qui est reversée justement pour aider les intermittents. C'est des taxes et la cotisation qui aide pour les gens qui ne travaillent pas. Donc c'est vraiment... Il y a des aides de l'État, ça c'est sûr, je dis pas, mais ça reste quand même une caisse qui s'autogère où ceux qui travaillent aident ceux qui ne travaillent pas. Et donc ce qui permet effectivement d'avoir des artistes qui ont des périodes de création, peut-être quelques mois, qui ne vont pas travailler à proprement dit, mais de pouvoir se consacrer à la musique sans avoir un autre travail à côté et de faire que ça. Ou d'autres techniciens, parfois, entre deux tournées, il n'y a pas de taf, ça permet de rester dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est quand même l'avantage de l'intermittence, c'est d'avoir, encore plus depuis un an et demi maintenant, depuis qu'il y a le Covid, on va pas se mentir, on a tous très peu bossé, ça me permet d'avoir quand même un minimum de salaire tout en restant dans le milieu de la musique.
D'accord, et du coup, puisque tu viens de parler de la Covid-19, comment est-ce que toi tu as vécu la crise sanitaire depuis justement qu'elle est arrivée début 2020 ?
Et assez particulièrement parce que quand c'est arrivé, j'étais en tournée. J'étais en tournée avec un groupe qui s'appelle Alceste, c'est un groupe français. Donc on était parti du 1er février jusqu'au 8 mars. Et on est parti en tournée, tout se passait bien. Et c'est vrai qu'au milieu de tournée, on a quand même... Quand on est en tournée, on n'est pas spécialement au jus de ce qui se passe dans le monde, encore moins en France, parce que on n'a pas toujours accès à une télé, pas toujours accès aux informations. Si on n'est pas abonné au Monde sur son iPhone, son iPad, on ne voit pas spécialement ce qui se passe dans le monde. Et voilà, on a entendu parler de ce truc, la Covid-19. Qu'est-ce que c'est que ça, ce Covid qui nous arrive, là, cette maladie en Chine un peu bizarre. Bon. Et puis, donc voilà, on était en tournée, on était quand même 18 gugus dans un tourbus, donc 3 groupes dans un tourbus à faire un concert tous les soirs. Je crois que sur le mois et demi de tournée, on a eu 2 journées off. C'était quand même assez intense et tous les jours à faire des concerts, bien entre nous, bien contents. Et on entend parler de ce truc-là. On a eu une date annulée en Italie parce que l'Italie commence à être un peu l'épicentre de tout ça en Europe. Mais voilà, date reportée en Suisse, sur la fin de tournée, on commençait à voir effectivement les promoteurs locaux qui me disaient « faut avancer l'ouverture des portes parce que on va faire des tests, on doit faire signer des décharges aux gens en leur demandant s'ils sont bien en bonne santé ». Bon, on ne savait pas trop ce que c'était. Effectivement, moi j'avais un de mes boss pour une production qui me dit « voilà, là, ça sent la merde ». Chez Sting cet été, ils sont en train de tout annuler. J'étais là, voyons que si cet été c'est pas fini, en gros on va tous mourir quoi. Mais parce que j'avais aucune idée de ce que c'était. Bon, on finit la tournée à Paris, coup de bol, aucune date annulée. Effectivement, à Paris on me dit, ouais c'est chaud, à partir de la semaine prochaine, commence à y avoir des jauges, on commence à être limité en jauge. En Alsace, c'est pas plus de 200 personnes, je crois. À Paris, c'est 2000. Enfin, t'es là. Ah ouais, quand même, on est en train d'arriver sur un truc assez étrange, assez grave. Et je finis cette tournée, je rejoins ma sistaria sur une dernière date un dimanche. Et sur le retour de cette date, j'appelle justement le gars qui m'avait un peu prévenu de tout ça et qui me dit « Putain, je sors de la préfecture. La semaine prochaine, on va être confinés. Il se passe vraiment un truc grave. » Je crois que les gens ne se rendent pas de compte, mais là, ça va être la merde. J'étais là, écoute, on va être confinés, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont fermer les écoles et compagnie, c'est chaud quand même là. Donc ça, on parle du lundi, avant le fameux lundi où je sais plus, le vendredi, où Macron nous a annoncé que, en gros, le lundi suivant, tout fermait, quoi. Bon, moi, je commence à me faire mes petites réserves, à m'enfermer chez moi, parce qu'au bout d'un mois et demi de tournée, j'ai envie de me reposer. Et effectivement, une semaine après, pays confiné, et je me retrouve à passer 2 mois à la maison, tout seul, avec mes chats, alors que je viens de passer quasiment autant de temps en surpopulation dans un bus, à 18, les uns sur les autres, H24, à manger, à me lever à des horaires, enfin me lever à 8h du mat, à me coucher à 3h à la fin du concert. Et là, me retrouver tout seul avec mes chats, ma guitare et mon ordinateur, voir personne et me dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc au début, c'était un peu étrange. Après, c'était plutôt pas mal parce que ça m'a permis de me recentrer sur pas mal de trucs personnels et professionnels. Et au bout de ça, on a commencé à se dire « Oula, qu'est-ce qui va se passer ? Ça commence à devenir un peu chaud parce que là, ça commence à s'annuler cet été. Qu'est-ce qui va, où on va ?» Donc au début c'était plutôt agréable, parce que c'est quand même rare les moments où on se repose dans nos métiers. Et au bout d'un moment, c'est vrai que le manque de voir les collègues, d'aller en concert, compagnie, elle commence à être bien pesant. Et puis quand est arrivé l'été et qu'on a commencé à voir toutes les dates annulées, qu'on commence à nous dire « ouais, les tournées sont reportées sur 2021, voire 2022 », on était là on est en 2020 quand même, 2022 c'est loin. Et ouais, effectivement, on en est aujourd'hui, on est en fin avril 2021, on est quand même toujours loin de reprendre la vie normale et on continue, moi, à me parler de report de tournée sur 2022. Donc, bien mais pas bien. Et puis surtout, ouais, un gros manque de se retrouver à un rythme de sédentaire, en fait, où tout le boulot se fait par ordinateur, où on bosse sur des événements, mais on fait uniquement les prépas sur... Enfin, où il n'y a plus aucun contact physique, aucun... Donc, petite dépression quand même à un moment. Petit manque de confiance, le recul sur tout ce que je fais. Est-ce que je suis vraiment heureux dans mon métier? Ce fameux syndrome, je ne sais plus quel est les psy ont trouvé ce fameux syndrome. En gros, le syndrome où on se sent coupable de rester à la maison. C'est-à-dire que moi, je me sentais coupable d'être chez moi, d'avoir l'envie de bosser, de toucher mon intermittence, mais de rester à la maison. J'avais envie de bosser, de faire du bénévolat, donc du coup, je me suis retrouvé à faire un peu de bénévolat, d'aide, de faire des formations, mais de me retrouver complètement perdu de ça, quoi. Enfin, de ne pas savoir où j'allais, de ne pas savoir quand ça allait finir, c'était un peu l'angoisse. Après, on a été déconfinés, ça a permis de revoir un peu quelques copains, mais on savait qu'on n'allait pas spécialement rebosser tout de suite. Mais ouais, c'était un peu... Et ça est toujours une période très étrange où on se sent pas toujours bien, mais du coup, on apprécie encore plus les moments de boulot. Et ça a permis de relativiser aussi sur pas mal de trucs, sur des artistes qui rechignaient sur 2-3 trucs, des détails où on se dit en fait on est bien content de faire ce métier, de voyager. Parce que quand tout s'arrête, en fait on est bien malheureux de plus se voir, on est bien malheureux de plus faire de musique, de plus voyager, de plus vivre de passion, parce que c'est quand même un métier de passion et c'est ça qui anime tout. Et quand ça s'arrête, ça fait vraiment bizarre. Mais moi personnellement, j'ai vécu comme ça. Au début, un peu comme un... Ah, c'est cool, ça fait du bien de se reposer, et c'est vite passé comme un oulala, il va vite falloir rebosser parce que ça commence à devenir l'angoisse.
D'accord, et c'est quoi ton meilleur souvenir de travail? Puisque là, tu parles de ce que tu as vécu en tournée, tout ça. Raconte-nous ton meilleur souvenir.
Meilleur souvenir de travail, ça va être un peu compliqué parce que ça va être vraiment dans différentes... C'est comme si tu me demandais... le meilleur concert que j'ai vu ou le meilleur groupe que j'ai vu, ce serait presque impossible de te répondre, mais il va y avoir le meilleur voyage. Je sais que j'ai eu la chance avec un groupe d'aller au Japon. Jamais moi-même je serais allé au Japon. J'ai eu la chance d'y aller et maintenant je rêve d'y retourner parce que c'est vraiment un pays qui m'a rendu fou. Enfin, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ou enfin qu'est-ce que c'est que ces gens, qu'est-ce que c'est que cette culture qui est complètement hallucinante. Ouais, meilleur souvenir, c'est les voyages. Je suis allé 4 fois à La Réunion avec des groupes, de pouvoir aller voyager aux États-Unis, enfin de faire presque le tour du monde grâce à ce métier, de rencontrer et de côtoyer des artistes dont je pouvais être fan jeune et les avoir comme amis plus tard, ou au moins comme connaissance, de travailler, au moins d'échanger avec eux, c'est plutôt... pour moi c'est une des meilleures choses que j'ai dans mon travail, mais sinon un des meilleurs souvenirs y en a tellement, en fait c'est toujours les premières fois. Je me souviens de la première fois où je suis monté dans un tourbus, la première fois où tu montes dans un van, la première fois où tu pars en tournée en avion. Mais non, sinon je dirais le Hellfest 2019 avec ma Sistaria en co-headline avec Gojira sur une des main stage, le Zénith de Massisteria, ma première tournée européenne. Ouais, c'est ça, ça va être tout un mélange de dates un peu exceptionnelles où y a des frissons qui arrivent direct ou des voyages parce que tu t'entends super bien avec les artistes et le crew et au-delà de la dimension du travail, ça prend une vraie dimension humaine et amicale qui fait que ça décuple tout ce qui se passe. Et c'est complètement fou. Je sais que j'ai eu la chance de partir un peu plus d'une semaine en 2017 avec Matt Bastard, donc, qui était le projet solo du chanteur de Skip the Use, avec une équipe avec laquelle on s'entendait tellement que les femmes des techniciens sont même venues sur place. Et ouais, c'était une bande de potes au paradis, quoi. Et c'était juste génial. Et tout ça pour une date. Donc même la date, c'était la rigolade, parce que on était trop contents d'être ensemble à La Réunion, dans un contexte cool, la date s'est bien passée, c'était génial, mais en plus, le contexte fait que, waouh, c'est trop beau, quoi. Donc voilà, mon meilleur souvenir, ça va être plein de souvenirs.
Que dirais-tu à un jeune ou une jeune qui veut faire ce métier de régisseur général ?
Alors, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais d'y croire, parce que malgré tout, ça reste compliqué. Faut se l'avouer, on reste quand même dans un pays où les gens ont une mauvaise vision de nos métiers. La culture un peu considérée comme un divertissement et un peu ce côté saltimbanque, genre ah, mon fils, tu feras de la musique quand... mon fils, ma fille, bien sûr, hein, si vous êtes une fille, bien au contraire. Tu feras de la musique ou tu rigoleras de ça quand tu auras un vrai diplôme. Sauf que c'est des vrais diplômes, c'est des vrais métiers. Là, en novembre-décembre dernier, justement, j'ai fait des formations dans des collèges. J'ai contacté les maires autour de chez moi. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais aller dans les collèges pour présenter les métiers du spectacle. Et en fait, on se rend compte que les gens connaissent pas les métiers du spectacle, ils savent pas comment y venir, ils savent pas comment s'enseigner. Et surtout, ils ont une image négative, effectivement, de les intermittents, ils foutent rien, ou la musique, c'est pas un vrai métier. Et je leur dis, je suis désolé, mais je gagne bien mieux ma vie et je suis bien plus heureux que parfois certains métiers très très durs que les gens choisissent pas. Et quand on y croit, faut y croire. Parfois c'est compliqué. On a la chance, comme je disais, en France, d'avoir l'intermittence qui aide justement au développement de tous ces métiers de techniciens et d'artistes dans beaucoup de styles. Mais on reste quand même dans un pays où c'est compliqué. Mais il y a des formations, il y a des prods qui sont là, il y a beaucoup de stages. On a la chance d'avoir les SMAC en France, donc des salles de concert qui sont aidées pour justement se développer et former des gens. Et moi, je sais que j'ai commencé comme ça. J'ai appris en allant à la SMAC à côté de chez moi, le Forum de Montréal, où je venais avec un groupe pour aider comme ça. J'allais voir des concerts plus petits. Et puis on m'a dit, viens demain, si tu veux, tu viens à 10h, on commence, et puis on te fait voir, comment patcher des micros, on te fait voir comment fonctionne la lumière, les différents métiers, enfin. J'ai appris comme ça, j'ai appris avec des groupes, et j'ai appris de passion, j'ai appris de gens qui m'ont montré, donc voilà, je dirais aux gens, soyez curieux, allez voir les gens qui sont des acteurs de ces métiers-là, renseignez-vous auprès des structures auprès de chez vous, que ce soit les boîtes de prestations, parce que on a beau dire, dans toutes les régions de France, il y a des boîtes de prestas pour sonoriser les événements, les concerts, les discours du maire et compagnie. Dans toutes les mairies, il y a un service technique qui est là pour ça. Et ouais, allez voir les artistes, allez voir les intermittents, allez voir les salles, se renseigner sur Internet. Il y a pas mal de documentation, il y a des formations, il y a une formation en France pour faire de la production, pour devenir tourman. Il y a des formations, beaucoup d'écoles pour faire du son, pour faire de la lumière, il y a des formations pour devenir backliner maintenant. Et voilà, faut oser y aller, il faut y croire, il faut se renseigner, et il faut surtout pas avoir peur d'oser aller parler aux gens qui font ces métiers, parce que même s'il y a des vieux frustrés, des vieux ronchons, 90% des gens font ça avec le cœur et avec passion et sont ravis d'aller répondre à des questions et à aider les gens. Moi, je sais que j'ai un collègue maintenant qui est un de mes meilleurs amis. Je l'ai rencontré parce que sur une date, c'est sa meuf qui me l'a littéralement poussé dans les bras Genre, bah tiens, ça fait des années que tu veux lui parler, bah vas-y, parle. Donc il s'est un peu présenté, salut, moi c'est Damien, j'aime bien ce que tu fais. Ah bah enchanté Damien, bah viens on discute. Bon, ce soir-là on n'a pas eu le temps de discuter, mais on s'est revu après, je lui ai dit bah tiens, tu veux apprendre le métier, il y a une date où j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, est-ce que ça te dit de venir? Elle me dit ouais, grave, et il est venu avec moi sur 4 dates je crois. Et puis voilà, je lui ai fait voir mon métier, il a appris comme ça. Et puis maintenant, il bosse avec moi sur Bassisteria, il bosse avec moi sur d'autres groupes. Mais à la base, je l'ai rencontré parce que, entre guillemets, on me l'a jeté dessus. Et j'étais juste ravi, comme moi, ça m'est arrivé à l'époque, que quelqu'un m'a pris sous son aile et m'a aidé. Bah, moi, j'ai envie de faire pareil avec les gens qui ont envie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire la même chose, donc faut pas hésiter à aller voir les gens. Moi, c'est ce que je ferais. J'irais voir les gens, j'irais aller voir les intermittents, aller voir les salles, aller voir les professionnels de ce milieu-là, aller voir, voilà quoi, se renseigner, être curieux et y croire surtout. Quand on est curieux, qu'on a la passion et qu'on a envie, et ben qu'on soit une fille, qu'on soit un garçon, qu'on ait 50 ans, qu'on en ait 14 ou qu'on en ait 25 ou qu'on ait déjà un métier ou pas de métier encore. Et le métier de la musique, c'est des métiers où il y a des formations, on peut apprendre sur le tas, on peut sortir avec un sans diplôme et avoir bossé chez McDo toute sa vie, et ben on peut apprendre à faire de la lumière, on peut apprendre à faire du son, on peut apprendre à faire de la régie, on peut apprendre plein de trucs et y arriver, et c'est des métiers où on se fait accueillir les bras ouverts. C'est compliqué d'y rentrer, parce que voilà, c'est, comme je disais, c'est un milieu où il y a peu de place, mais quand on y rentre, on y est bien, et il y a des gens qui accueillent les autres les bras ouverts généralement.
Donc, au vu de toute ta carrière professionnelle à l'heure actuelle, tu es fier de ce que tu as fait ?
Fier, j'en sais rien, mais je suis très content de vivre ça depuis... ben un peu plus de 10 ans maintenant. Et ouais, c'est sûr que pour rien au monde, je changerai les 10 dernières années qui viennent de se passer pour aucun autre métier. Et peut-être qu'un jour, je changerai de métier parce que, effectivement, j'aurai un peu plus envie d'être à la maison, j'aurai un peu plus envie de me poser, d'être au calme. Il y a d'autres métiers qui permettent d'être dans la musique et d'être au calme. Mais ouais, non, je suis vraiment content de faire ce que je fais et d'y être arrivé. Et je suis content d'avoir suivi... mon chemin à l'époque, et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir soutenu quand j'étais jeune. C'est vrai que ça m'a permis un peu de m'aider à financer des études. Ça m'a permis, voilà. Enfin, parfois, on se retrouve à devoir aller à une formation à l'autre bout de la France, donc payer un loyer, trouver un petit boulot à côté. C'est pas toujours simple. Moi, j'ai la chance d'avoir environnement familial qui m'a aidé, mais j'ai plein de gens autour de moi, effectivement, qui ont fait des formations à l'étranger ou à l'autre bout de la France. C'est compliqué, mais au bout de 2 ans, quand t'en sors et que tu travailles vraiment, tu te prends toute la passion que t'as mis justement dans ces 2 années un peu compliquées, et là, c'est la folie. Parce que bah, je trouve qu'il n'y a rien de mieux au monde que de pouvoir travailler dans quelque chose qui nous passionne ou qui donne envie, quoi.